1, 2, droit soleil est un balado du Bureau international des droits des enfants qui informe, explique et questionne la situation des enfants et de leurs droits à travers le monde.
Anna a 12 ans. Ses parents ont des problèmes de consommation, de la difficulté à s'occuper d'elle et ne parviennent pas à répondre à ses besoins en matière de nourriture, soins médicaux et supervision. Elle manifeste des signes de malnutrition, des troubles du comportement, un abandon scolaire et multiplie les fugues. Après plusieurs signalements, le directeur de la protection de la jeunesse mène une enquête et conclut que la situation met en danger le développement de Anna. Puis, en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse, un tribunal décide de la placer dans un centre jeunesse. Léo, lui, a 16 ans. Il est déjà connu des autorités pour des délits mineurs et son apparente affiliation à des gangs de rue. Un jour, il commet un vol à main armée dans un magasin. L'incident est considéré grave puisqu'il met en danger la sécurité publique. Il est arrêté et après une évaluation, un juge conclut qu'il présente un risque de récidive et que des mesures de réadaptation sont nécessaires pour sa réinsertion sociale. En vertu de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, le tribunal ordonne son placement dans un centre de réadaptation. Ces cas sont fictifs, mais ils illustrent la réalité de nombreux enfants québécois. Le placement en institution, souvent considéré comme une mesure de protection de l'enfant, représente en réalité une forme de privation de liberté. Ces enfants sont enfermés. Ils devraient donc être envisagés en dernier recours, pour une durée aussi brève que possible, ou lorsque l'enfant est en danger imminent. Cependant, le placement est souvent privilégié par les autorités, principalement en raison du manque de soutien familial et communautaire, ainsi que d'alternatives de placement. Bonjour et bienvenue au balado 1, 2, 3 Soleil. Je suis Sandrine Le Renard, conseillère senior en protection de l'enfant au Bureau international des droits des enfants, votre animatrice pour cet épisode. Dans l'épisode précédent, nous avons discuté de la situation spécifique des enfants en situation de migration et leur traitement une fois arrivés au Québec. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants privés de liberté dans le cadre de leur placement en centre jeunesse avec Elisabeth Espana, conseillère en justice pour enfants. Alors merci Elisabeth d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Sandrine, merci, je suis ravie d'être ici aussi.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le placement d'enfants en centre de réadaptation est considéré comme une forme de privation de liberté?
Oui, en fait, placer un enfant en centre de réadaptation, souvent appelé centre jeunesse, peut être assimilé à de la privation de liberté dans ce qu'on appelle le contexte des institutions. Ce contexte de privation de liberté est plus difficile à saisir parce que le placement de l'enfant poursuit généralement un objectif perçu comme étant légitime. Au Québec, par exemple, certains enfants sont placés dans des centres pour des besoins de protection lorsqu'ils sont dans des situations de vulnérabilité qui compromettent leur sécurité ou leur développement et qu'ils ont besoin, en vertu de la LPJ, d'un encadrement intensif. D'autres enfants sont également placés sous garde fermée dans les centres quand ils ont commis un crime et qu'ils ont été déclarés coupables, qu'ils présentent des risques de récidive élevés et qu'on souhaite les encadrer dans leur réadaptation. De fait, tous ces enfants se trouvent en fait dans des situations où ils ne peuvent pas quitter un lieu déterminé de leur propre gré, ce qui, par définition, en fait, constitue de la privation de liberté. De plus, si on analyse les conditions de placement, on remarque qu'ils sont généralement isolés de la communauté, ont peu ou aucun contrôle sur leur vie et les décisions qui les concernent, et parfois bénéficient difficilement d'un suivi individualisé adapté à leurs besoins.
Donc ces enfants, en fait, par la force des choses, se retrouvent enfermés. Mais alors si ces décisions sont prises, est-ce que ce n'est pas quelque part pour leur bien? On avait parlé d'intérêt supérieur lors du dernier épisode. Est-ce que là encore, on ne pourrait pas justifier ce placement au nom de leur intérêt supérieur?
Ça dépend. En théorie, l'objectif d'un centre, c'est d'offrir des services de réadaptation et d'intégration sociale aux jeunes placés en vertu de la LPJ ou de la loi sur la justice pénale pour adolescents. En pratique, le placement en institution peut souvent avoir des effets négatifs sur le bien-être de l'enfant, surtout lorsque les conditions et traitements offerts sont inappropriés. Dans ces circonstances, on peut considérer que le placement en institution peut nuire au développement de l'enfant, que ce soit au niveau psycho-émotionnel, physique, social ou cognitif. Donc, considérons par exemple la difficulté rencontrée par les jeunes pour créer des relations saines et pérennes, parce qu'il y a, entre autres, un taux élevé de rotation des équipes d'éducateurs ou d'intervenants. Ce fait en soi peut être problématique et avoir un impact majeur sur le développement de l'enfant parce qu'il n'arrive pas à avoir des figures d'attachement stables. Il y a aussi le fait d'être enfermé qui peut avoir des conséquences en termes d'estime de soi, ce qui conduit à de nombreux comportements que l'on pourrait considérer inadaptés. Et puis, il faudrait aussi considérer que la majorité de ces enfants se trouvent dans la période d'adolescence. Donc, on parle ici d'un moment de leur vie où ils cherchent leur place dans les groupes, dans la société, et l'aspect social est incroyablement important pour eux. Puis, les enfants placés en institution sont également plus à risque d'être exposés à des violations de leurs droits, un risque qui augmente avec la taille des groupes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le même risque existe dans les petits groupes.
Justement, comme tu mentionnes les violations de droits dans les institutions, je me rappelle que le rapport de la commission Laurent, qui a analysé les enjeux du système de protection de la jeunesse québécois, avait souligné en 2021 l'importance de former les personnels des centres de réadaptation sur l'application des mesures de contrôle pour qu'elles ne soient pas utilisées comme des mesures disciplinaires. Est-ce que la situation a évolué depuis?
En réalité, on pourrait dire que la situation ne s'est pas nécessairement améliorée. On peut constater l'augmentation généralisée du recours aux différentes mesures de contrôle et c'est une pratique qui est actuellement préoccupante dans les centres de réadaptation. Il y a un reportage qui est sorti en mai 2024 dans la presse où il commente sur les mesures de contrôle qui sont utilisées, comme l'isolement. Donc, on parle ici d'enfants qui sont confinés dans un lieu fermé et ils ne peuvent pas sortir librement. Le retrait en hors-service, donc on place l'enfant dans un lieu isolé sans pour autant l'enfermer, ou les mesures de contention, donc quand on restreint les mouvements de l'enfant, que ce soit par force physique ou par des moyens mécaniques. Toutes ces mesures, selon le reportage de la presse, sont de plus en plus utilisées. Donc, par exemple, il y a un centre à Montréal où il y a eu 139 isolements en 2023, comparé à 89 isolements en 2021. Et la durée moyenne de ces isolements est passée de 23 minutes en 2021, comparé à 31 minutes en 2023. Cette augmentation, on peut l'expliquer peut-être par la complexité des situations vécues par les jeunes, combinée aussi à un manque d'expérience et de formation des personnels. Une autre enquête menée récemment par le protecteur du citoyen a révélé qu'un centre de réadaptation confinait les jeunes dans leur chambre en verrouillant les portes chaque nuit pendant plus de 15 heures, même s'ils se trouvaient déjà dans ce qu'on peut considérer une unité sécurisée. Le centre en question avait justifié cette pratique pour des raisons de sécurité, puisqu'il n'avait qu'un seul gardien pour assurer la surveillance du bâtiment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les mesures de contrôle ne devraient pas être servies pour compenser un manque de personnel formé ou des contraintes budgétaires. Donc oui, le manque de formation est toujours présent pour l'application de ces mesures, mais on peut également constater qu'il existe des enjeux encore systémiques qui aggravent cette situation.
Alors, tu parles d'enjeux systémiques qui aggravent cette situation. Est-ce qu'au-delà de l'application de ces mesures de contrôle, il y a certaines conditions de placement qui, je dirais, pourrait refléter des situations similaires à de la privation de liberté?
Donc, on peut considérer plusieurs éléments. D'abord, on peut penser à l'environnement physique des centres qui peuvent généralement être considérés comme étant vieux et inadéquats pour favoriser la réadaptation du jeune. Parce que la réalité, c'est que la plupart de ces centres ont été construits dans les années 60 et 70 et donc, ils conservent un certain aspect carcéral. Il y a aussi eu des enquêtes dans les dernières années qui ont pointé vers des problèmes liés à l'état de ces centres, comme la moisissure, un manque d'éclairage, une ventilation insuffisante, des pièces sans fenêtres ou même des chambres temporaires avec des matelas qui sont placés à terre. Ensuite, on peut penser à tout ce qui concerne l'accès des jeunes à des services adaptés qu'on peut dire est limité. Pourquoi? Parce que les services de santé physique et psychologique sont à échelle variable à travers le Québec, comme l'a mentionné le rapport de la commission Laurent que tu as mentionné tout à l'heure. Et les services spécialisés ne sont pas disponibles quand les enfants en ont besoin. Sur le plan éducatif, il y a des recherches qui montrent que le passage en centre de réadaptation peut, dans certaines situations, entraîner des retards dans le cheminement scolaire, ce qui va nécessairement compliquer l'obtention des diplômes et affecter le jeune dans son processus d'autonomisation. Puis, un dernier élément à considérer est l'alimentation des enfants, qui est parfois insuffisante, que ce soit en raison des contraintes budgétaires, du manque d'équipement pour cuisiner des repas frais ou, dans des cas exceptionnels mais qui sont arrivés, de l'utilisation des restrictions alimentaires comme un moyen de punition.
On a vu ces dernières années que certains groupes d'enfants étaient impactés de manière disproportionnée par ces mauvaises conditions et que certains étaient surreprésentés dans les centres. C'est le cas notamment des enfants autochtones. En 2019, un enfant des Premières Nations est 3,5 fois plus à risque de se faire évaluer par les services de protection de la jeunesse au Québec qu'un enfant dans la population non autochtone. Dans les services de justice au Canada, en 2021-2022, les jeunes autochtones constituaient 48% des jeunes en détention, soit 6 fois leur représentation dans la population des jeunes Canadiens. Alors, quels sont les enjeux que ces enfants rencontrent dans les centres?
Les enfants autochtones sont confrontés aux mêmes enjeux qu'on a mentionnés, mais à cause de l'histoire colonialiste et de l'impact intergénérationnel des écoles résidentielles dans la province et dans le pays, ils font également face à des défis supplémentaires. Le placement des enfants autochtones, que ce soit dans le cadre de la protection ou de la justice, perturbe considérablement tout ce qui est la transmission de leur culture, de leurs connaissances et de leurs valeurs. C'est quand même incroyable de penser qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en 2021 ou 2022, on se retrouvait encore à devoir dénoncer des centres pour décourager, voire même interdire, des jeunes autochtones de parler dans leur langue maternelle. On sait maintenant que pour ces enfants, le principe de continuité culturelle doit être considéré comme une priorité dans les interventions du système. Mais quand les ressources et les structures sont absentes ou font défaut, il devient difficile de respecter ce principe. Et donc, ça entraîne souvent des placements pour ces enfants en dehors de leur communauté, augmentant ainsi le risque de déracinement à long terme et, bien évidemment, détériorant la confiance qu'ils ont envers les systèmes de justice et de protection. Ceci étant dit, en matière de protection de la jeunesse, un point positif des dernières années a été l'adoption de la loi fédérale concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Cette loi, qui vise notamment à répondre à l'échec des systèmes provinciaux de protection de la jeunesse, reconnaît aux peuples autochtones le pouvoir de gérer eux-mêmes le bien-être de leurs enfants en adoptant leur propre loi de protection. Et c'est en fait que depuis 2022, les enfants de la communauté d'Atikamekw d'Otpitiwan bénéficient de leur propre loi de protection qui est plus axée sur des services de prévention et favorise une participation du jeune et de sa famille dans toute prise de décision. Cette approche produit déjà des résultats encourageants en éliminant presque totalement les placements hors communauté et en garantissant aux enfants Atikamekw qu'ils soient accueillis par des familles d'accueil de la communauté Atikamekw.
Une très bonne nouvelle, donc, et qui nous démontre que c'est possible de trouver des solutions qui sont appropriées pour ces enfants. Merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir échangé avec nous aujourd'hui. On espère que dans les mois à venir, ce sujet recevra l'intérêt qu'il mérite. La manière dont les enfants sont traités dans ces centres a été largement relayée par la presse, mais malheureusement en faisant souvent porter la seule responsabilité aux équipes qui interviennent auprès des enfants. Or, au-delà de la responsabilité individuelle de certaines personnes, on ne peut pas nier que le problème est plus large et systémique. Il est également intéressant de voir, je note, tout comme dans notre épisode précédent, à quel point la sémantique est importante. La dernière fois, on parlait d'enfants hébergés pour des enfants détenus avec leurs parents. Ici, on parle de centres de réadaptation pour ne pas parler finalement de centres fermés. De notre côté, à l'IBCR, donc au Bureau international des droits de l'enfant, on souhaite continuer à rappeler que la privation de liberté, ça doit toujours être le dernier recours et qu'elle doit être la plus brève possible. Donc c'est pourquoi on encourage, tant que ce soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant, la mise en œuvre d'alternatives à la privation de liberté, ce qui permet à l'enfant de rester au sein de sa famille et de sa communauté. Nous arrivons au bout de notre première saison de podcast qui s'est intéressée à la question de privation de liberté des enfants. Alors si le sujet de la justice adaptée aux enfants vous intéresse, restez connectés aux actualités du bureau. Un congrès mondial sur la justice pour les enfants aura lieu du 2 au 4 juin 2025 à Madrid, en Espagne, avec des événements associés partout dans le monde. Et l'IBCR organisera des rencontres à Montréal. Un grand merci à tous et à toutes pour votre écoute et rendez-vous prochainement pour la saison 2. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous et pour nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à compléter notre sondage disponible sur les réseaux sociaux et dans la barre de description sur Spotify.